Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Et d'images, on va en parler. Et donc aujourd'hui, quatre projets narratifs, et notamment celui d'Éléonore Marshall, intitulé Manger. Si ce livre a des inspirations autobiographiques, Manger reste l'histoire de Miss, un personnage qui s'abîme peu à peu dans le dédale des troubles du comportement alimentaire, les TCA. Diplômée d'un master de bande dessinée et d'édition à l'École supérieure des arts de Saint-Luc à Bruxelles, l'autrice, avec audace, tant dans le récit, les dialogues, le dessin et la mise en couleur, nous confronte de l'intérieur aux troubles du comportement alimentaire. Nous serons avec Éléonore Marshall à partir de 14h15 pour qu'elle nous précise l'écriture de son roman graphique. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marin pour cette technique. Je te dirai merci tout à l'heure, mais en tout cas, bienvenue une nouvelle fois. Et donc cette fois, là, tu vas être solo manette. Tout va bien se passer. Une brève tout d'abord. Avec la sélection des palmarès, la sélection pour les palmarès de l'édition 2025 du Festival d'Angoulême. Elles sont maintenant sur le site du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Les sigles FIBD vous permettent d'accéder directement au site. 84 titres sont en lice. On a une sélection officielle pour le Fauve d'Or avec 44 titres. Il y a le prix du Patrimoine, donc 8 titres, et les Garçons et Alex Todd que je vous présenterai très prochainement. Prix Jeunesse, prix Polar, prix Écofauve, Raya, à chaque fois pour souligner et appuyer des partenariats. Il y a un prix pour les lycéens, puis une sélection qui est faite en partenariat avec le rectorat qui complète, qui concurrence ces sélections jeunesse et lycéens. On n'a toujours pas la sélection des trois auteurs qui vont être en lice pour le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Je vous le rappelle, c'est Posy Simmons, l'auteure anglaise, qui sera la présidente de ce prochain festival d'Angoulême, invitée d'honneur avec une exposition. Je suis plutôt satisfait parce que dans l'ensemble de cette sélection, il y a pas mal de titres que je vous ai présentés. Comme quoi, ça va, je ne suis pas trop décalé. Les Shadocks, et on se retrouve tout de suite après. Alors, pour compléter cette brève, juste pour vous dire que les musiques ont été choisies par Éléonore Marshall, vous écouterez successivement Jeanne Masse avec En rouge et noir, Superflip, Je fume plus de shit et Compromat avec Niemand. Et je voudrais démarrer cette première présentation des projets narratifs associés à celui d'Éléonore Marshall par Parjure de Nicolas Savoie et Simon Beauvarlet de Moimont. Alors, Parjure est un roman graphique assez imposant, il fait 184 pages, et c'est un livre en noir et blanc, donc le feuilletage nous donne tout de suite ce renseignement. Il y a, lorsqu'on feuillette, vraiment ce noir intense et cette absence complète de gris qui est vraiment le parti pris de Nicolas Savoie et qui est d'ailleurs par ailleurs un très bon coloriste également. Alors, le récit. Pour son épouse, Baldric rompt ses serments et renie sa religion. Lorsqu'elle décède, il décide de la rejoindre dans la mort et confie à son ancien frère juré, le roi, l'éducation de son fils. Le jeune homme se liera d'amitié avec Arulf, le prince. Ils forgent eux aussi une relation fraternelle qui sera mise à l'épreuve par une histoire d'amour. Donc, le récit est inspiré d'une légende nordique et c'est vraiment un récit sur à la fois l'amitié adolescente et cette intrigue amoureuse entre une jeune femme, Freydis, et les deux frères qui sont liés parce que Brune a été recueillie par le roi et donc son fils, ils vont devenir frères tous les deux. Et il y a donc cette intensité de l'intrigue qui est vraiment assez déterminante. Alors, dans un projet narratif comme celui-là, il y a un certain nombre de partis pris qui sont posés assez rapidement pour que puisse se déployer l'écriture de l'histoire jusqu'à son terme. Alors lorsqu'on regarde Parjure, on aperçoit, on sent les choix qui ont été faits. Je pense aussi bien par Simon Beauvarlet de Moimont que Nicolas Savoie. Il y a notamment le choix d'un espace assez important entre les bandes d'images, qui est beaucoup plus important que d'habitude, et qui, lorsqu'on regarde l'ensemble d'une page ou d'une double page, ces espaces importants pèsent beaucoup plus que lorsqu'on regarde n'importe quelle bande dessinée où il y a cette proximité et parfois juste un trait de séparation. Là, il y a un parti pris sur lequel j'ai des réserves parce que le noir intense des cases va être un peu dilué par l'importance de ce blanc autour des images. Il y a après d'autres choix qui sont à chaque fois des partis pris importants. Le nombre de cases, par exemple, c'est important, il y a une notion essentielle en bande dessinée qui est que l'espace de la case et les enchaînements entre les différentes cases vont permettre une gestion du temps du récit. Plus vous aurez un grand nombre de cases dans une double page, plus normalement, il y a des variations bien sûr, le temps de la scène sera long. Si vous avez peu de cases, il y aura un temps qui sera plutôt court. Et donc, dans ce récit, l'auteur va jouer à la fois sur des pages où on a relativement peu de cases, 2, 3, il y a même des images, des grandes images, une image par page, et puis d'autres scènes où on va avoir une fragmentation avec, par exemple, 4 bandes d'images, avec 3 images par bande, et d'une très grande régularité pour montrer des instants, suggérer un écoulement du temps assez long. Donc on a cette gestion du temps qui, très souvent, se montre très efficace. Et à d'autres moments, on a des très grandes images pour un espace ou une représentation, comme par exemple les deux mains des deux jeunes mariés qui vont être reliés par un ruban pour symboliser leur union. Et on a une très grande image pour représenter ces deux mains, alors qu'elle n'apporte rien par sa taille. Cette gestion des grandes images est aussi assez importante parce que à des moments, il y a des scènes avec une vue très large d'une ville, d'un village, donc des pays nordiques. Nous sommes au temps des Vikings et elle apporte beaucoup de renseignements, il y a beaucoup à lire et l'œil explore les différents détails de ces images. Et puis à l'opposé, on a des images, des grandes images, comme je l'ai évoqué avec ces deux mains, mais parfois ça va même plus loin avec un gros plan sur un portrait et qui là aussi détonne et surprend. Et puis il y a cette façon d'utiliser les bulles, de lettrer. Il y a toujours une grande difficulté dans la bande dessinée et ça nécessite des partis pris souvent assez difficiles à conceptualiser ou qui ne sont pas forcément naturels. Mais là, par exemple, avec ce dessin qui est très précis, très fin, avec des traits tirés. Donc il y a une maîtrise de la représentation. Ce n'est pas un dessin à l'énergie. Et il y a associé à ça une mise en lettrage et une façon très régulière de représenter les bulles qui donne un côté très sage, presque froid à cet ensemble. Il y aurait sans doute fallu quelque chose de plus proche des scènes pour que ces bulles soient moins pesantes. Il y a même une pleine page où on a un très grand nombre de bulles qui représentent des voix off, qui sont juste accumulées comme ça. Et là aussi, c'est très surprenant parce que on ne peut pas, en tant que lecteur, les appréhender comme des voix émanant des personnages que l'on voit sur l'image dans une scène de village, et cette confusion, cette utilisation de la bulle se montre très surprenante, là aussi, parce qu'elle n'atteint pas son but. Parjure, c'est le nom, effectivement, du mouvement que fait Baldric en changeant de religion, en reniant sa religion viking pour devenir chrétien. Et le récit reste pourtant reste celui d'un triangle amoureux avec cette confrontation importante entre deux jeunes adultes, deux jeunes hommes, et puis la jeune femme qui va devoir se marier avec Arulf. Et donc là, on a un titre un peu surprenant qui marque, effectivement, parce que parjure, c'est un mot fort. Et c'est en tout cas un livre sur les coutumes contre la liberté, sur cette puissance des coutumes, et notamment celui du mariage forcé, puisque cette histoire de ce triangle amoureux, c'est celle du mariage forcé, où une jeune fille va devoir se marier avec un jeune homme qu'elle n'aime pas et pour lequel elle n'a pas de sentiments. C'est aussi donc dans notre histoire, cette histoire des mariages forcés, et c'est pas inutile de le rappeler. Parjure de Nicolas Savoie pour il est co-scénariste, il est dessinateur et lettreur. Le scénariste est aussi Simon Beauvarlet de Moimont. Les 184 pages de ce récit sont au prix de 28 euros. Et le livre a été publié par les éditions Delcourt dans la collection Mirage. Cette fois, c'est les moustiques. Alors, je voudrais continuer par un livre assez étonnant. J'ai évoqué hier Jeff Lemire. Et là, c'est de nouveau un livre avec, cette fois seulement au scénario et au co-scénario, puisqu'il a un deuxième scénariste. Donc, c'est le livre Cosmic Détective qui réunit trois auteurs. Donc, il y a Jeff Lemire, scénariste que j'ai déjà cité, Matt Kint, qui est un autre scénariste américain, et David Rubin, qui est un dessinateur, mais pas seulement, il peut être coloriste et aussi scénariste, et qui a beaucoup travaillé pour les Américains, qui continue d'ailleurs. Cosmic Detective a en introduction une citation importante dédiée à Jack Kirby. Jack Kirby qui nous montre que tout est possible sur les pages d'une bande dessinée. Alors, nous sommes en présence d'un comics, c'est une édition donc américaine, et là, eh bien, alors on sait que les Américains sont capables de tout faire dans une bande dessinée, et Kirby qui a inventé la chose avec ce personnage qui est tout en pierre et qui donc fait partie des X-Men, eh bien, c'est impressionnant comme dans ce défi de dire qu'est-ce que l'on peut encore inventer, eh bien, les scénaristes, avec l'aide aussi, je pense, du dessinateur, Jeff Lemire et Matt Kint, ont inventé différentes choses. Alors, lorsqu'on lit la quatrième, Quentin, un mot barré, est assassiné, qui met-on sur l'affaire ? Je vais être un peu plus précis sur le récit. Le meurtre d'un dieu menace de déchirer le tissu spatio-temporel qui est la base même de notre réalité. Notre cosmique détective essaye de résoudre l'affaire pour faire obstacle à une destruction totale, mais les mystères sur lesquels il enquêtera et ce qu'il découvrira seront-ils pires que le désastre qu'il tente d'éviter ? Son esprit vacillera-t-il sous les révélations auxquelles il doit faire face ? Alors, moi je trouve que ça part pas mal, donc ce mot caché, c'est le mot Dieu. Alors il va apparaître manifestement à plusieurs reprises, ainsi comme s'il était censuré, et on va rentrer très rapidement dans un univers où cette présence des dieux, elle va avoir des conséquences, on va la voir en images, il va y avoir une concrétisation à la fois de ce monde des humains et de celui de ces êtres sacrés. Alors ça démarre, on a notre cosmique détective qui va être appelé pour découvrir un meurtre, et déjà le personnage est entouré d'une sorte de manifestation un petit peu surnaturelle, de volutes, d'une substance, des choses qui lui sortent des yeux, mais c'est assez léger. Et puis, on continue de rentrer, il y a une séquence dans un café, et il y a toujours des décalages assez marqués sur ce qui peut se passer avec la réalité. Le cosmique détective sort, et là, il approche sa voiture, il ouvre le coffre, il y a une sorte de lave en fusion dans le coffre, il rentre carrément dans le coffre, il se retrouve dans les sous-sols, et là, c'est un univers complètement libre, dégagé, que les auteurs créent avec beaucoup d'efficacité. Il y a une palette de couleurs assez contrastée, plutôt vive, avec un travail qui a aussi beaucoup de nuances, simplement la cigarette, comment elle va être décorée, donc beaucoup de subtilité pour représenter un univers où la ville souterraine est aussi importante que la ville au-dessus donc du sol, la ville classique. Donc tout le temps, dans le récit, va s'affirmer ces décalages, tant sur le plan narratif, avec notamment cette présence de personnes qui commandent le cosmique détective et qui vont donc l'obliger à prendre telle ou telle direction, à poursuivre l'enquête. Un autre ancien détective qui va l'approcher pour le mettre en garde. À chaque fois, on est sur une situation qui peut être banale, mais tout de suite, on va avoir un décalage qui va lui donner une autre forme, une autre intensité, une autre représentation. Et tout au long des 192 pages de récit, on est constamment avec une dynamique de l'intrigue, de rebondissement, on va de rebondissement en rebondissement, et avec souvent beaucoup, beaucoup d'ironie. Parce qu'il y a dans cette écriture une sorte de jeu. C'est vraiment un jeu d'écrire un tel scénario. Il y a une scène dans la piscine qui va être, je pense, assez vite mémorable pour un détective de cette carrure. Il y a un côté très ironique, un peu ridicule, une façon de le tourner en dérision qui fonctionne parfaitement. C'est ce plaisir qui se transmet à la lecture de ce cosmique détective. C'est donc à la fois un jeu narratif où là aussi tout est possible, et sur la mise en image, la mise en couleur, le découpage, les dialogues, il y a une conduite du dialogue très efficace. Eh bien voilà, il y a ce plaisir qui se transmet pour une histoire donc qui est un récit complet. Donc on ne va pas avoir les 50 et quelques et 100 épisodes d'un nouveau super-héros. Il est simple détective, mais évolue dans un monde plutôt surprenant, avec ce côté cosmique. Et c'est une réussite. Cosmic Detective, récit complet de Jeff Lemire et Matt Kint au scénario et David Rubin pour la partie dessin. C'est traduit par Hélène Renaud. Les lettrages sont de Moscow Hay et les 192 pages de ce récit sont au prix de 23,50 €. Ça a été imprimé en Allemagne et c'est aussi en édition avec la maison d'édition américaine Image, qui est dirigée par Kirkman, le scénariste de Walking Dead. Musique.
J'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer. Toutes les fois que j'ai eu peur, je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier. Et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. Tant de châteaux qui se réduisaient en sable. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur. En échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. Si différent, j'aurais su vous pardonner. Je serais moins seule à présent. Somnambule, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuent. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève. Chez moi, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge, chez moi, j'afficherai mon cœur. En échange d'une trêve de douceur. En rouge, chez moi, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge, chez moi, un mot de mes colères, je réclame.
Eleanor Marshall. Pour Eleanor Marshall, le projet narratif de manger, de décrire les troubles du comportement alimentaire de l'intérieur. S'inspirant en grande partie de sa propre histoire, elle prend des distances avec l'autobiographie, aussi bien dans le récit, mais aussi dans le dessin et la mise en couleur. Miss, personnage central de Manger, sous les injonctions d'une mère virulente aux phrases assassines, peine à valoriser son image d'elle-même. Un petit exemple de ces phrases assassines. Amma, c'est mieux pour toi, car tu sais, tu as intérêt à bien travailler à l'école parce que plus tard, tu es tellement grosse et moche que tu pourras même pas faire pute. C'est pas plutôt virulent. Elle va se dégrader avec une obsession grandissante de sa ligne, de son poids jamais satisfaisant. Le poids devient une obsession. Manger s'oppose à maigrir. Eleanor Marshall enferme Miss dans sa déraison alimentaire, ses dérives permanentes face à la nourriture, puis dans les troubles du comportement alimentaire, boulimie, anorexie et aussi hyperphagie ou orthorexie. Cette écriture où pour Miss rien ne peut être vécu en dehors de manger, l'autrice dessine avec un trait à distance du réalisme pour donner à la représentation des corps une douleur, une violence. La représentation des parents en père cheval et en mère limace imposante amplifie cette expression. Elle souligne également l'intériorité de ses sentiments. Pour renforcer cette représentation intériorisée des troubles du comportement alimentaire, Eleanor Marshall raconte la vie de Miss jusqu'à l'âge adulte sans interruption, sans transition, comme un continuum. Une mise en couleur audacieuse sur ce dessin chahuté finit de nous entraîner dans cette lutte face aux troubles du comportement alimentaire. Nous sommes avec Eleanor Marshall pour qu'elle nous détaille l'écriture de ce roman graphique. Bonjour Eleanor Marshall.
Bonjour.
Alors, à la lecture de votre livre, j'ai envie de savoir comment s'est mis en place tout ça. Comment avez-vous cheminé dans l'écriture de cet ensemble sur la vie de Miss face au poids? C'est pas une question piège. Hein.
Je savais que c'était un sujet dont je voulais parler et qu'il y avait beaucoup à dire dessus. Donc j'ai écrit et réécrit tout ce que je pouvais dire dessus. Et ensuite, j'ai essayé de le mettre en forme, et naturellement les trois parties sont venues. Donc il y a trois parties, ça parle de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte, qui sont différentes phases des troubles du comportement alimentaire chez les personnages.
Alors, on a l'impression de ne pas en sortir, même s'il y a ces trois parties, mais on a vraiment l'impression qu'elles sont complètement liées, qu'il n'y a pas de véritable changement, si ce n'est sur peut-être l'évolution du malaise.
Oui, c'est ça.
Alors, comment avez-vous choisi dans tout ce que vous avez écrit sur ce que représente cette vie avec des troubles du comportement alimentaire?
Pardon, comment j'ai choisi quoi?
Oui, c'est-à-dire comment vous avez sélectionné, comment vous avez agencé l'ensemble de votre histoire?
J'ai réécrit plusieurs fois l'histoire sans jamais supprimer ce que j'avais écrit. Et ensuite, je voyais, tiens, le fait d'avoir collé ces deux passages à côté ou cette formulation, ça marche mieux. Et j'ai fait aussi des recherches pour compléter. Mon but, c'était que ça soit le plus complet possible. Que ça soit un ouvrage le plus complet possible sur les troubles du comportement alimentaire. Et ensuite, je me suis dit, bon, ça fait beaucoup. Comment je fais pour que on puisse passer justement de tels sentiments par rapport à la nourriture puis tel sentiment. Donc c'est agencé sur une journée. Donc par exemple, la première partie verte, ça commence par comment dire, là où si on prend la deuxième partie, ça commence par le matin, puis petit à petit on suit le personnage tout le long de la journée avec des contacts sociaux, avec les parents, avec les amis, seule, puis ensuite elle va se coucher. Et ça permet de faire le tour de tout ce qui peut arriver dans une journée par rapport au comportement alimentaire.
Éléonore Marchal, à quel moment le dessin arrive ?
Dans ma vie ?
Non, pas, bah pourquoi pas, mais surtout par rapport à l'écriture, par rapport à l'écriture de ce récit.
D'abord, j'ai beaucoup écrit. Il y a parfois, quand il y a des images qui sautent, qui viennent dans ma tête, je les dessine. C'est intéressant d'ailleurs de regarder les premiers dessins qui sont très différents du rendu final, parce qu'il y a un long cheminement, ça m'a pris du temps. Mais ça arrive à la fin du scénario, le gros du dessin. Je sais ce que j'ai à peu près par planche. Et là, je cherche mes références et je regarde et je compose le dessin.
Alors, vous l'avez évoqué, le dessin va évoluer. Il est assez marqué, effectivement, dans un certain style. Mais par la suite, au fur et à mesure que l'on avance, le dessin, finalement, est marqué aussi par les troubles de Miss, par ses tourments, Éléonore Marchal.
Oui, après, je ne sais pas dessiner autrement. Mais c'est vrai que j'attache une importance à dessiner des corps très charnels, dans le sens où on voit tous les plis, les ondulations.
Comment avez-vous choisi de représenter les corps ? Alors, il y a des effets assez ironiques, un peu comiques, aux Simpsons, à la Matt Groening, avec les yeux qui sortent pour exprimer la tentation, le désir. Comment c'est fait, cette représentation des corps ? Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont obèses ? Peut-être à part l'image de la mer en limace énorme, mais comment se fait cette approche de cette représentation ?
Il y a beaucoup de peintures de référence. Donc je prends beaucoup de peintures d'histoire de l'art et je les redessine et j'ai tendance à les... à faire attention à ce que ce ne soit pas des personnages trop minces, on va dire.
C'est-à-dire ouais. Qu'est-ce qui vous embêterait dans le fait qu'il soit humain, Éléonore Marchal ?
Ou pas forcément trop mince, même quand je dessine des personnages maigres ou très minces, pour moi c'est important de ne pas lisser le corps et de le montrer humain. C'est ce qui est beau quand on voit que c'est vivant.
Votre trait est comme marqué à la manière d'Egon Schiele, où il y a ces corps qui sont très tourmentés. C'est aussi vrai, vous vouliez aller dans cet esprit-là, Éléonore Marchal?
J'aime beaucoup Egon Schiele, j'aime bien le fait de marquer chaque petit détail, je trouve ça plus vivant. Oui. Par rapport au sujet, c'était important de montrer à chaque fois le corps. À chaque fois, j'essaie qu'il soit... certes, il est très charnel, un peu étrange, mais il y a quelque chose aussi de... Comment dire ? De charnel, de sexy à représenter. Mais je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose de positif aussi dedans, en tout cas.
Alors, Comment c'est fait vous avez parlé donc de ce temps d'écriture important. Est-ce qu'il y a eu pour la mise en scène un travail équivalent pour le découpage, le choix des doubles pages? Est-ce que ou est-ce qu'il y a une sorte d'écriture dessinée qui va se faire au fur et à mesure en suivant le scénario?
En fait, d'abord, je fais mon scénario. Quand j'ai une idée à peu près de tout ce qu'il y a, je le compose et en fait directement je travaille sur un fichier sur mon ordinateur. Et déjà là, en fait, je commence à le couper. Par exemple, je sais qu'à chaque fois que je vais à la ligne, ça veut dire que je change de bande. Et je passe beaucoup de temps dans mon lit, les yeux fermés, à m'imaginer la scène. Donc en fait, dans ma tête, j'ai déjà une idée de la composition quand je l'écris. Voilà. J'imagine beaucoup ce qu'il va y avoir sur ma planche avant. Enfin, la composition est dans ma tête.
Et donc à ce moment-là, vous la transposer, il y a peu de décalage entre ce que vous avez visualisé et ce qui est représenté sur le fichier, Éléonore Marshall.
Ouais. C'est comme si je me baladais dans un film, on va dire, mais je ne sais pas encore ça va être quel plan, en général, mais je sais qu'en termes de rythme, il va falloir qu'il y ait deux cases pour représenter ce dialogue. Je sais que chaque page fasse une petite histoire, que ce soit pas plus, pas moins, que les doubles pages fonctionnent aussi entre elles. Donc j'ai une idée de ce qu'il y a en termes de texte et de rythme et de couleur, à peu près d'ambiance, mais je sais pas encore quel point de vue va être adopté. Donc ça se fait au moment du dessin.
Éléonore Marshall, je vous propose une pause musicale avec le deuxième titre que vous avez choisi, Super Flip, Je ne fume plus de shit. À tout de suite.
Depuis que je fume plus de shit, je me rappelle de mes rêves. J'ai pris conscience que le temps passe et que la vie est brève. Je suis bien dans la rue. Mes bulles, je n'ai plus trop de boulettes. Je fais du sport, je me lève à 8h. Fini les grasses matins interminables jusqu'à 4h. Je suis plus vif et je me trouve plus beau. Fini les yeux rouges, le teint pâle, la parano.
Sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Éléonore Marshall à l'occasion de la parution de son premier roman graphique, Manger. Éléonore Marshall, comment s'est passée l'écriture des dialogues? Vous l'avez évoqué, il y a une vision très complète de l'ensemble de ce que représentent ces troubles du comportement alimentaire, mais qui sont des situations du quotidien que tout le monde a vécu à travers d'autres ou directement soi-même. Comment s'est fait l'écriture des dialogues et la composition des dialogues?
La plupart des dialogues, c'est des dialogues que j'ai vécu et que donc j'ai essayé de retranscrire au maximum les émotions qui pouvaient ressortir. Il y a des dialogues aussi que j'ai entendus ou que j'ai vus dans des témoignages sur Internet ou en discutant avec des amis. Mais en général, j'essaie de prendre des phrases telles quelles pour qu'elles aient l'air réelles.
Voilà. Est-ce que vous les exprimez à haute voix pour les affiner ? Est-ce que vous les relisez une fois l'ensemble des dessins effectués ? Comment les précisez-vous ?
Donc quand je passe beaucoup de temps donc, à créer dans mon livre les yeux fermés avec, j'imagine, ce qu'il y a dans ma planche, et je répète en boucle le dialogue pour voir est-ce que ça me paraît réel, le fait qu'il puisse y avoir cette interaction et que la personne réponde. Je répète, voilà.
Et puis, je voudrais qu'on parle de la mise en couleur. Alors là, il y a beaucoup d'audace, il y a un mouvement à l'intérieur de votre livre important. Comment abordez-vous la mise en couleur, Éléonore Marchal ?
Donc, il y a trois parties dans le livre. La première est dans des teintes de verte, la deuxième dans des teintes de rouge, à peu près, rose, et la troisième dans des teintes de bleu. Et j'ai essayé que, lorsqu'on feuillette le livre, on puisse avoir cette impression de « tiens, toute cette partie est rouge, toute cette partie est bleue ». Ça matche aussi avec l'histoire, parce que le personnage principal veut devenir créatrice de couleurs. Et c'était une manière aussi de distinguer les troubles du comportement alimentaire. Voilà.
Alors... Vous avez évoqué un fichier. C'est des couleurs qui sont travaillées sur l'ordinateur. Comment ça se passe ?
Alors oui, elles sont travaillées sur l'ordinateur. Il y a un aspect un peu feutre dedans. Mais tout est fait sur l'ordinateur. Et parfois, je prends des images ou des photos, des peintures de référence. Et je vais chercher les teintes qui m'intéressent et je les retravaille.
Qu'est-ce que ça vous apporte de ce principe de la couleur informatique ? Quel confort ça permet, Éléonore Marchal ?
Alors, si j'aurais fait les originaux au feutre, il y a moins le droit à l'erreur quand c'est à la main. Alors que là, je peux m'y reprendre. Si finalement, je me dis, tiens, finalement, je vais changer toute la gamme de ce passage, c'est plus facile. En termes aussi de reproduction, lorsqu'on scanne des images qui ont été réalisées au feutre, chaque teinte, c'est difficile de récupérer chaque teinte. Par exemple, le rose va devenir rouge quasiment, alors qu'il y a des couleurs qui vont plus s'effacer, comme le bleu ou le vert. Et pour l'avoir déjà fait, je sais que ça prend beaucoup de temps. Donc, comme je savais qu'il allait y avoir beaucoup de pages, je me suis dit, je vais perdre patience. Si je fais les originaux en couleur. Et aussi, le fait de le faire sur l'ordinateur, ça me permet de travailler plus facilement avec des images de référence. Parce qu'il y a on peut prendre avec la pipette, on peut aller chercher une couleur et la retranscrire.
Vous avez évoqué... tout à l'heure, ce principe de l'écriture d'ensemble. Alors, Lorenzo Mattotti, lorsqu'il réalisait des histoires d'ampleur, il mettait toutes ses planches sur un fil à linge et pour voir les rythmes, notamment des noirs et blancs. Est-ce que vous avez cherché à avoir une vue d'ensemble pour à la fois les rythmes du dessin, des mouvements, de la mise en couleur, Comment s'est passée cette vision globale de votre récit, Éléonore Marchal?
C'est très intelligent, les cordes à linge. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille sur des feuilles papier machine et uniquement le recto, ce qui fait que je peux les étaler en face de moi, par terre ou sur mon bureau. Et au début, je fais des tout petits croquis pour avoir une idée de la page et de la double page. Et donc, ça me permet d'avoir une idée visuelle de à quoi ça va ressembler. Et par rapport aux couleurs, sur mon ordinateur, je peux voir et défiler pour être sûr que ça fasse bien une ambiance toute bleue, par exemple. Parce que je vois en petite vignette toutes les planches qui s'affichent.
En postface de votre livre, vous remerciez vos professeurs d'atelier. Donc, il y avait Philippe de Pierrepont, Thierry Vanassel et Eric Lambé, qui sont donc des professeurs à l'école de Saint-Luc à Bruxelles. Qu'est-ce que ça représente, cette transmission de tels auteurs dans un cursus universitaire?
Je pense que si j'aurais pas fait l'école, il y a plein de choses, je sais pas si je les aurais conscientisées ou je pense que j'en serais pas là où je suis maintenant. Et les professeurs permettent de pointer le doigt sur des choses vraiment très importantes en termes de rythme ou de narration, de composition. Enfin, c'est un immense boost, on va dire. Ils m'ont beaucoup appris, par exemple, le fait que parfois il faut laisser du temps à une scène. Donc, parfois, ça ne sert à rien de répéter quelque chose en boucle. Si en deux, trois cases, ça suffit. Pour plein de... Je sais qu'ils m'ont énormément appris en termes de narration et de rythme.
Merci beaucoup, Éléonore Marchal, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle les caractéristiques de votre livre, Manger. Donc, c'est publié par les éditions Cambourakis. Vous êtes scénariste, dessinatrice, coloriste, et vous avez effectué le lettrage. Les 260 pages de ce livre sont au prix de 24 euros. Et très bonne continuation. Merci. À bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein unter einem Stein unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Wutbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie.
Je voudrais terminer cette émission avec un roman graphique assez étonnant qui s'appelle La Gare. Et si vous êtes dans une librairie, vous le feuilletez, vous serez avec des repères qui vont être complètement différents. Une mise en image qui ne rappelle pas d'autres mises en image, une écriture, un découpage qui est là aussi assez différent, des représentations, un trait, un rapport au personnage qui n'est pas du tout dans ce qu'on a l'habitude de lire. La Gare de Raphaël Geoffrey est vraiment un livre à part. Avant de détailler ce qui le rend si particulier et si intense, développons le récit. Anna, directrice d'une gare tentaculaire, tombe amoureuse pour la première fois de sa vie. Elle a croisé Adam dans une soirée, mais lui se souvient à peine d'elle et s'apprête de toute façon à rentrer chez lui à l'étranger. Alors à Anna comme elle irréparable. Elle utilise son pouvoir pour empêcher l'élu de son cœur, de quitter le territoire en faisant invalider son passeport. Dans l'illégalité, Adam, ignorant qu'il est victime d'une machination, n'a d'autre choix que de rester auprès de cette femme étrange et séduisante qui lui porte secours le temps que sa situation se régularise. Entre deux se noue une passion d'autant plus folle qu'elle n'est pas censée durer. Pataugeant dans des émotions qu'elle ne sait pas gérer, Anna perd peu à peu pied et délaisse les foules d'usagers dont elle a la charge, incapable désormais d'assurer leur bonne circulation. La couverture est déjà un décalage par rapport aux couvertures habituelles où on a soi-disant des sortes de repères, de passages obligés. Donc on a les différents protagonistes du récit. On a Adam et Anna qui sont au centre de cette couverture, mais plutôt de très petite taille comme l'ensemble des personnages, des évocations de la foule, de l'immensité de la gare. C'est tout à fait étonnant. Et puis, on va rentrer dans ce récit et découvrir toute la liberté des espaces narratifs que s'est ouvert Raphaël Geoffrey. Il y a une représentation de la foule dès les premières pages qui montre une volonté d'utiliser aussi l'abstraction pour représenter la multitude de personnes qui peuvent traverser une gare. Et donc, à plusieurs reprises, on va avoir cette sensation de la multitude et Raphaël Geoffrey va en faire une abstraction où, comme si les corps s'aggloméraient, donnaient des sortes de formes un peu troubles, marquées par la vitesse et qu'elles prenaient une très grande importance sur l'ensemble de ces réseaux qui peuvent être observés de la place de Anna et des personnes qui dirigent cette gare. Il y a donc une volonté affirmée d'aller vers l'abstraction, de représenter cette foule par l'agglomération des individus qui vont faire comme de grandes masses mouvantes. Il y a une représentation des décors avec une certaine rectitude, une volonté d'être très facilement dans le lointain, avec des cadrages plutôt très larges, même si la case est relativement petite. Une volonté aussi d'exprimer l'immensité et de renforcer ainsi la représentation qu'on peut se faire de cette gare dans laquelle il y a une quantité de voyageurs, de personnel, de personnes. On a toujours vécu au moins une fois ce rapport à l'immensité d'une gare avec ses halls immenses. Donc, il y a donc des propositions pour représenter l'immensité qui va se traduire à différents niveaux. Par exemple, celle de la foule, je l'ai évoqué, les trains qui vont être représentés en très petit, et on va tout de suite imaginer un réseau ferroviaire immense, la tour qui régit cette gare sur laquelle règne Anna et elle aussi immense, même l'immensité du lit qui accueille les ébats de Anna et d'Adam paraît là aussi immense. Les personnages sont souvent d'assez petite taille dans le cadre pour toujours garder une sorte de rapport au lointain et toujours un espace assez large. Raphaël Geffray va jouer avec des narrations superposées qui vont ainsi montrer cette juxtaposition du temps. Et petit à petit va s'exprimer une expression du pouvoir des nantis, du pouvoir de la richesse, même de cet absolu du pouvoir de dirigeant de lieux comme celui-là. Le récit va donc prendre une dimension politique très intense, avec une astuce de découpage assez importante, une sorte de retour permanent à la régularité du découpage. On a beaucoup de variations, mais très régulièrement, Raphaël Geffray revient à ces trois hauteurs de bande identiques qui vont montrer et donner une assise à l'ensemble de cette histoire. Il y a parfois des fragmentations dans cette mise en image, mais c'est ici pour mieux évoquer l'éloignement des personnages, de la réalité, une sorte de façon de relativiser l'importance du contenu même de l'image. Il y a une dynamique narrative importante. La grève va arriver, va complexifier la gestion complète de cet ensemble qu'est la gare. Et là aussi, on va avoir donc une métaphore du capitalisme avec ce lieu incroyable. Et Raphaël Geffray insiste, appuie sur cette façon très politique d'exprimer son récit. Il y a quelques scènes comme par exemple où l'utilisation de l'ascenseur qui se fait en extérieur avec un ascenseur vitré va permettre à Raphaël Geffray d'exprimer la hauteur des lieux. Et il y aura sur la représentation des réseaux ce recours aussi à l'abstraction qui là donne ce lien très fort entre l'immensité et quelque chose que l'on semble absolument pas maîtriser. Beaucoup d'astuces après sur les récitatives, sur cette façon vraiment d'être dans la miniature. C'est vraiment une éloge de la miniature. Et au milieu de cet ensemble, bien la nudité des corps va exprimer la liberté, va s'opposer au pouvoir, à la responsabilité, à la froideur de la direction. Il y a une façon ainsi de convoquer la folie, de l'opposer à cette gestion très capitaliste de la gare qui est souvent déshumanisée. Il y a vraiment toujours une volonté de faire sens avec chacun des dessins de cette histoire. les oppositions entre l'immobile et la vitesse, comment cette gare et sa gestion amènent les gens à être toujours pressés, toujours dans la rapidité. Et puis, en arrière-plan, il y a aussi cette façon de montrer ce qu'est cette surveillance permanente. Le récit n'est autre qu'une femme qui peut regarder et surveiller en permanence tout ce qui se passe dans sa gare. C'est donc là aussi une poursuite de cette écriture politique avec l'écriture d'une violence sociale. C'est un récit inhabituel, mais qui mérite vraiment de le découvrir et de montrer que, nouvelle fois, un peu à la manière que Martin Panchaud avait réalisé l'écriture des la couleur des choses qui avait été primée à Angoulême et qui montrait qu'on pouvait aller et repousser encore les limites de l'écriture dessinée. Et c'est tout à fait ce que réussit Raphaël Geffray, montrer que l'écriture en bande dessinée peut être beaucoup plus ouverte, et c'est une très grande réussite. La gare, Raphaël Geffray, c'est publié par les éditions Sarbacane. Les 192 pages de ce récit sont au prix de 26 euros. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.